Moi, dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie de la Bible, et dans le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, au chapitre 9, deuxième livre de Samuel, chapitre 9, et nous lisons à partir du verset numéro 1, avant de lire ce passage de l'Écriture, j'aimerais vous dire ceci, c'est que la Bible, elle est christocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et même si dans le récit que nous allons lire ensemble, il n'est pas fait mention de Jésus directement, eh bien, il y est pourtant fait allusion. Et c'est ce qu'on va, eh bien, voir ensemble. Il est parlé dans ce texte, non pas directement, mais indirectement de ce que Dieu désire manifester dans nos vies au travers de la foi que nous plaçons ou que nous sommes appelés, encouragés à placer dans la personne et dans l'œuvre que Jésus a accomplie il y a plus de 2000 ans sur cette croix. Il n'est pas seulement mort sur la croix, nous croyons que, et c'est notre expérience et notre témoignage, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il vit aujourd'hui, qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, amen, et que la foi que nous plaçons en lui est capable de changer non seulement notre destinée, mais de nous sauver, de nous communiquer une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit, amen, et de nous assurer, gloire à Dieu, eh bien, le salut éternel, l'établissement du royaume de Dieu qui est à venir et qui prendra place un jour. L'éternité dans la présence même de Dieu. Amen. Donc le texte nous dit ceci, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, alors c'est dans un français un petit peu, hein, quand il lui dit, « Es-tu Tsiba ?» et qu'il répond, « Ton serviteur », ça signifie, « Je suis à ton service, c'est bien moi. » Voilà, on peut le résumer de cette manière. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds, c'est-à-dire boiteux, handicapé au niveau eh bien, de ses pieds. Le roi lui dit, où est-il ? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, c'est-à-dire Jonathan c'était son père, et c'est une expression aussi pour décrire du fait qu'il venait de Saül. Donc Jonathan est son père et Saül son grand-père. Nous continuons. Vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba, avec 15 fils et 20 serviteurs, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Amen. Je dois vous avouer que j'aime particulièrement ce récit de la parole de Dieu, parce que j'ai l'habitude de dire que je me retrouve dans cette histoire. Ici, nous avons un roi, en l'occurrence le roi David. Donc cela fait référence à l'histoire d'Israël qui cherche quelqu'un à qui il pourra faire du bien à cause de Jonathan. Et ce quelqu'un venait de la maison de Saül. Et lorsqu'on connaît un petit peu les récits bibliques, on s'aperçoit étonnamment que la maison de Saül, et le roi Saül en l'occurrence, c'était un roi qui persécutait le roi David, qui, avant de devenir roi, était pourchassé par Saül. Il avait des désirs meurtriers à son égard. Nous voyons que Saül, par tous les moyens, cherchait à mettre à mort David. Et on peut être étonné finalement de l'attitude de David ici, qui cherche à faire du bien et à user de la bonté de Dieu envers quelqu'un de la maison de Saül, c'est-à-dire de la maison de ce roi qui avait tenté à plusieurs reprises de le mettre à mort et de lui faire du mal. Finalement, il cherchait quelqu'un de la maison de Saül, de la maison de son ennemi. Non pas qu'il avait cherché lui-même à être l'ennemi du roi Saül, mais le roi Saül avait pris David pour son ennemi. Et alors, le roi David ici cherche quelqu'un à qui il pourrait faire du bien et user de la bonté de Dieu à cause de Jonathan. Jonathan, c'était le père de Saül. Et Jonathan avait fait une alliance avec Saül avec David. Il avait compris que David était celui qui serait amené un jour à régner, à devenir roi. Il a traité une alliance avec lui. Et dans cette alliance qui a été traitée entre David et Jonathan, il y avait une promesse que David avait était censé tenir et que Jonathan lui avait demandé, c'était qu'il use de la bonté, qu'il fasse du bien à ses descendants. Et quand je vous disais que cette histoire, c'est un petit peu une biographie de ma vie, je voudrais vous expliquer pourquoi. Nous ne savons pas toujours que finalement Dieu nous cherche, parce que David ici est l'image tout simplement de Dieu, de l'homme selon le cœur de Dieu. On pourrait dire de l'homme animé des sentiments de Dieu, du cœur de Dieu, des désirs de Dieu, des desseins que Dieu veut manifester à notre égard. Nous ne percevons pas toujours, mais Dieu, que nous ne voyons pas, cherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes à qui il pourra faire du bien, qu'elle pourra bénir parce que Dieu est bon et il veut user de sa bonté envers des hommes et des femmes. Et il met tout en œuvre pour cela. Il fait aujourd'hui encore comme David l'a fait. David a mis tout en œuvre pour aller chercher Mephibosheth là où il se trouvait. Et aujourd'hui, je crois que Dieu met tout en œuvre pour rejoindre des hommes et des femmes là où quelque part ils se trouvent dans leur situation de vie, désirant une seule chose, leur faire du bien et manifester à leur égard sa bonté, son cœur, ses désirs bienveillants à l'égard d'une humanité qui ressemble à bien des égards à celle de Mephibosheth. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu mon parcours et comment j'ai été amené à la foi et comment finalement Dieu, à l'égard de notre maison, de notre famille, comme nous le voyons ici, nous a fait tant et tant de bien. Combien Dieu a usé envers nous, et envers notre maison, notre famille, de la bonté qui est la sienne. Je suis né dans une famille catholique, pratiquante. Et je suis allé au catéchisme, c'est là que j'ai entendu parler de Dieu, de Jésus, mais cette connaissance, elle était simplement intellectuelle. La vie chrétienne de mes parents, si on peut l'appeler de cette manière, c'était une vie faite de traditions religieuses, de pratiques héritées de la famille, mais il n'y avait pas de relation personnelle vivante avec Dieu. Il n'y avait pas une compréhension du salut que Dieu était venu manifester en Jésus-Christ. Il n'y avait pas de révélation de l'œuvre de la croix, de ce pourquoi Jésus était mort et de ce que ça impliquait, notre condition de pécheur, le fait que Jésus avait sur la croix expié nos péchés et qu'il désirait nous sauver du péché, de ses conséquences. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait des pratiques religieuses, il y avait des présences à des offices religieux, mais une ignorance totale de ces réalités. Et alors que dans notre famille, tout allait bien au niveau matériel et qu'il y avait un certain confort sur le plan matériel, j'ai commencé à voir que la relation entre mon père et ma mère connaissait des difficultés. Et mon père, de manière secrète, commençait à m'expliquer, je me souviens encore de cela, qu'il n'avait plus les mêmes sentiments à l'égard de ma mère. Et un jour, alors que j'allais au courrier, dans mon adolescence, j'ai vu un courrier que mon père nous a laissé, où je croyais qu'il nous avait écrit avant de partir au travail le matin. Et lorsque j'ai ouvert ce courrier et que j'ai commencé à le lire, mon père nous expliquait qu'il partait de la maison vivre avec sa secrétaire qui était de 20 années plus jeune que lui. Et lorsque j'ai donné ce courrier à ma mère et que je lui ai expliqué ce qui était en train de se passer, je me souviens encore que dans la cuisine, elle s'est écroulée en sanglots, elle a crié. Et pour moi, c'était comme si le monde s'écroulait en fait. Je souffrais de voir ma mère souffrir, je souffrais de voir mon père être parti. Je souffrais tout simplement de la situation. Et dans la circonstance que traversait maman et que nous traversions, la seule connaissance que j'avais à l'époque, c'était ce dont je viens de vous parler il y a quelques instants, les pratiques religieuses héritées de nos ancêtres. Et dans mon ignorance, je suis allé à l'église de là où j'habitais, catholique. Mais je me suis adressé à Dieu ce jour-là avec une toute autre manière, avec laquelle j'avais pu le faire jusqu'à maintenant. Je crois vraiment que Dieu a vu mon cœur et qu'au-delà de mon ignorance, Dieu a vu mon cœur. Et je me suis tourné vers le Seigneur, la statue de Jésus à l'époque, parce que c'était que ce que je connaissais. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce vers quoi Dieu veut nous diriger. Je vous explique le cheminement qui était le mien. Et j'ai dit, ô Dieu, Seigneur Jésus, si tu existes, je voudrais que mon père revienne à la maison. Et par l'entremise d'une personne que nous connaissions, d'un ami de mon père, au bout d'une semaine, il est effectivement revenu à la maison. Mais la situation n'avait pas changé. Il entretenait toujours cette relation adultère avec sa secrétaire qui a duré pendant 13 années. 13 années. Mais où, finalement, dans cette circonstance-là, ma mère, par le biais d'une voisine, a entendu parler de Jésus d'une toute autre manière. Cette voisine, alors que ma mère lui parlait de sa souffrance, de sa peine et du sentiment qu'elle avait que Dieu ne l'écoutait pas, que Dieu n'entendait pas, que Dieu ne faisait rien, l'a invitée donc à des réunions de maison où des chrétiens vraiment nés de nouveau, authentiques, partageaient l'évangile, voulaient tout simplement partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ma mère, à l'écoute de la prédication, des temps de partage autour de la parole de Dieu, a été convaincue de péché par le Saint-Esprit. Elle a pris conscience, non pas par un raisonnement qui lui était personnel, mais par une action de l'Esprit de Dieu dans son être intérieur, de ses péchés, de son besoin de Christ pour être réconciliée avec Dieu par le pardon des péchés. Elle a pris conscience que Jésus était mort pour elle. Ce n'était plus quelque chose d'intellectuel, mais une révélation personnelle. Elle a pris conscience de son état de perdition, malgré les pratiques religieuses qui étaient les siennes. Et la foi dans le Seigneur Jésus est née dans son cœur. Elle a demandé pardon pour ses péchés, a placé sa foi, sa confiance en Christ pour le pardon de ses péchés et pour faire l'expérience de la puissance de la vie nouvelle et éternelle qu'il y a dans le Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu un changement chez ma mère qui, pour moi, me parlait d'une expérience différente, authentique, puissante, mais qui l'amenait aussi, et c'était son choix, son expérience. Et il ne faut pas forcément à chercher de faire de copier-coller avec ce qu'elle a vécu. Elle a décidé à partir de ce jour-là de prier pour que la vie de son mari change, que ce qu'elle avait vécu elle-même, il le vive lui-même à son tour, que sa vie soit transformée, changée. Et elle a commencé à prier pour lui. Elle a commencé à demander au Seigneur vraiment de toucher cet homme, de changer sa vie. Et alors qu'il entretenait toujours cette relation adultère, il était méchant avec elle. Dieu lui a donné la force de supporter tout ce qu'elle a supporté. Elle continuait de prier. Et alors que moi, j'avais prié pour que mon père revienne, j'ai grandi avec une profonde révolte envers lui, une profonde haine à son égard, allant jusqu'un jour, dans la nuit, à attendre qu'il rentre et dépose sa maîtresse chez elle pour vraiment lui planter un couteau dans le cœur, je ne sais pas où, mais je voulais vraiment leur faire la peau à tous les deux. J'avais une haine terrible. Et en même temps, et parallèlement à cela, je cherchais des refuges à ma souffrance, avec les amis, en sortant en discothèque, avec l'alcool, la drogue, le bédo, appelez comme vous voulez, mais je cherchais vraiment à ce que cette souffrance qui était en moi disparaisse. Et je pensais que c'était de cette manière-là qu'elle allait partir. Et je voyais toujours ma mère prier pour lui, demander à Dieu de le changer. Et je me disais, elle est complètement folle. Elle ne voit rien. Elle ne voit pas ce qui se passe. Et au lycée, alors qu'elle m'avait donné l'évangile, la parole de Dieu, alors que je discutais avec Malika, qui est devenue mon épouse aujourd'hui, j'ai dit à cette jeune fille qui était née dans une famille musulmane pratiquante, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas, l'évangile. Si toi, ça t'intéresse, prends-le et lis-le si tu le veux. Moi, je n'en ai pas besoin. Et elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à lire l'évangile en cachette de sa famille. Elle a été touchée par Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors qu'elle était en recherche, en questionnement, elle a été convaincue que la vérité était ici. Et elle est allée plus loin et elle me disait, elle me parlait de son cheminement. Alors je lui ai donné un trésor quotidien. J'ai dit à ma mère, écoute, ça semble l'intéresser, donne-moi un trésor quotidien ou un bon semence, je ne sais plus. Et elle voyait qu'elle pouvait parler à Dieu comme à un père, et non pas réciter toutes sortes de prières qu'elle ne comprenait même pas en arabe. Et alors qu'elle avait prié dans le sens de sa religion par le passé musulmane, elle a senti pour la première fois la présence de Dieu se manifester dans cette chambre. Et elle a été convaincue, oui, une fois de plus, que le nom de Jésus, amen, connecté à Dieu, nous mettait en relation avec la présence de Dieu. Et ses parents ont découvert que nous avions une relation. Des filles nous ont dénoncé. Et pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, ses parents sont venus de nuit à ma demande parce que ses parents lui avaient dit « À partir de maintenant, tu ne sors plus de la maison. » Elle avait trouvé sa mère prosternée dans la chambre et qui lui a dit « Tu ne sors plus d'ici maintenant. » Et elle a réussi en cachette à m'appeler. Et j'ai dit à mes parents, vous faites venir ses parents, s'il vous plaît. Et j'ai dit à mes parents, je veux me marier avec elle. Je l'aime, je veux me marier avec elle. Et mes parents ont proposé à ses parents un mariage. Et pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, ils se sont sentis comme obligés d'accepter ce mariage, mais à une condition, c'était que je devienne musulman. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est Malika. Musulman, pour moi, pas de problème, ça ne changera rien. Et nous nous sommes mariés à la mosquée de Paris. Et au bout de 6 mois de mariage, c'était la détresse la plus totale au sein de notre couple. Nous faisions chambre à part. Ma femme me disait « je ne t'aime plus ». Et je souffrais. Je me disais « mais finalement, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La maison de mes parents, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. » Je sentais vraiment quelque chose qui était en train de détruire notre couple, notre mariage. Et n'en pouvant plus, un mardi soir, je me souviens alors que j'étais dans le boulevard Aristide Briand au Havre, j'ai demandé à ma mère de me donner l'adresse de l'église évangélique. Et je suis allé, en ayant pris le soin, avant d'y aller, d'appeler le pasteur. Ce pasteur m'a reçu, il m'a écouté. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Je lui ai dit, moi ce que je veux, c'est que mon couple soit restauré. C'est que les choses changent, j'en ai marre, j'en peux plus. Et il a dit, parce que tu veux ce que Dieu veut, alors je crois que nous pouvons prier dans ce sens. Et ce soir-là, j'ai vu toute l'église, des gens que je ne connaissais pas, prier pour nous, m'accueillir, c'était un baume dans ma souffrance et dans la peine qui était la mienne. Et lorsque je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, écoute, je suis allé dans cette église, j'aimerais que tu viennes avec moi dimanche prochain. Ce qu'elle a accepté de faire, nous sommes allés au culte, à l'évangélisation le dimanche après-midi. Nous allions aux réunions et nous entendions parler du Seigneur, la parole de Dieu touchait notre cœur. Et notre couple, progressivement, a été complètement restauré. Dieu nous a fait du bien. Et ce que nous entendions touchait notre cœur. Il arrivait qu'à l'écoute de la parole de Dieu, nous pleurions. Nous étions touchés dans notre conscience spirituelle, dans notre conscience intérieure. Et nous n'avons cessé depuis ce jour d'aller à toutes les réunions que l'Église proposait. Nous étions touchés et nous nous sommes fait baptiser le même jour. Nous avons compris par une révélation de l'Esprit de Dieu, comme ma mère l'avait expérimenté, notre condition de pécheur, que nous étions séparés de Dieu et nous avions besoin d'entrer dans une communion vivante avec Dieu qui n'était possible que par la personne et l'œuvre de Jésus. Et que eh bien, c'était le seul et unique espoir de changement pour nous.
Bénis notre mariage. Amen. Je crois dans ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu change les temps et les circonstances. Amen. Je crois que oui, lorsqu'on s'approche du Seigneur, lorsqu'on met notre foi en lui, les temps et les circonstances peuvent changer. Gloire à Dieu. Dieu a restauré. Nous sommes engagés. Quelques temps après, Père, maîtresse, qu'elle a dit la sœur. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, je suis d'accord. Un grand alléluia. Combien de temps après ? 2 ans. Quand elle l'a quitté, il a avalé plusieurs tubes. Il a été aussi.
la grâce de Dieu. Lorsqu'il était entrepreneur, il avait quitté la région normande pour pouvoir être et revenir le week-end.
C'est bon, il est à nouveau allumé. Et alors qu'il était parti toute la semaine dans une ville en Corrèze, Ussel, et qu'il avait repris une entreprise, parce que vous savez, quand on vit dans le péché comme il vivait, ça a été la dégringolade sur le plan du mariage, la dégringolade sur le plan financier, alors qu'ils avaient une bonne situation, tout a été vraiment, tout a été détruit par le péché. Et alors qu'il s'en est sorti et qu'un jour il va dans une famille pour se faire régler un chantier qu'il avait fait, eh bien, ce qu'il ne savait pas, c'était que ceux vers qui il allait aller, c'était des chrétiens. Et qui avaient reçu en priant le matin que l'homme qui allait venir, eh bien, avait besoin de la grâce de Dieu, de quelque chose qu'il ne méritait pas. Mais que Dieu pourtant voulait manifester envers lui, lui faire du bien, manifester envers lui sa bonté. Il aurait pu le juger selon ses fautes, mais Dieu attendait cet homme, qui est mon père, et avait un rendez-vous avec lui. Et ces chrétiens lui ont dit, écoutez monsieur, nous avons reçu de la part du Seigneur que vous souffrez, que Dieu désire changer votre vie. Et que vous pouvez, eh bien, expérimenter quelque chose d'autre que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et ils lui ont donné le chèque du chantier, mais ils lui ont donné aussi l'évangile. Amen. Et je me souviens que j'étais au bureau, à mon travail, et mon père m'a appelé, et il nous a demandé pardon. Et il a dit, je donne ma vie au Seigneur, je me tourne vers Dieu. Je me repens de mes fautes et je me tourne vers le Seigneur. Et il s'est engagé par les eaux du baptême à suivre le Seigneur. Il a confessé publiquement sa foi. Et tout ça pour vous dire que nous ne pouvons pas forcément grand-chose par rapport à des choses qui nous sont arrivées. Mais nous pouvons faire quelque chose avec ce que Dieu veut faire par rapport à ce qui nous est arrivé. Et Mephibosheth, à l'âge de 5 ans, avait été laissé tomber. Parce que le même jour, son père et son grand-père étaient morts. Et sa nourrice, dans la crainte qui était la sienne, alors qu'elle fuyait, a laissé tomber l'enfant. Et depuis ce jour, il est devenu perclus, des pieds boiteux, des pieds. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant, mais ce que je sais, c'est que Dieu, au travers de celui qui a été donné, Jésus-Christ, eh bien, est en capacité de te faire du bien, de te bénir, d'user envers toi de sa bonté, amen, et de faire comme il l'a fait dans notre famille, du bien, là où il y avait tellement eu de mal qui avait pris place, là où tellement de mal avait atteint Mephibosheth, alors qu'il vivait dans la crainte, retiré, alors qu'il ne savait pas que quelqu'un le cherchait pour lui faire du bien. J'aimerais te dire que je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas quelle est ton histoire de vie, mais ce que je sais par-dessus tout, c'est que le bien que Dieu veut te faire, amen, passe par l'œuvre et la personne de Jésus, celui qui a été donné pour toi, amen, celui que Dieu a donné par amour pour toi, et le bien que Dieu est en mesure de te faire, eh bien, il est pleinement accessible au travers de la foi que tu mettra dans le Seigneur Jésus et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix. Amen. Dieu veut faire du bien là où le péché a abondé. Amen. Non pas le péché dont nous avons été les auteurs, mais nous avons été les victimes aussi. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Dans la foi en Jésus-Christ. Et comme Mephibosheth,
Peut-être tu as été laissé tomber. Tomber par ton mari. Peut-être que tu as été laissé tomber par les membres de ta famille. Parce qu'avant d'entrer dans la typologie de ce texte, peut-être que c'est des choses que tu as vécues. Tu as été laissé tomber par celui dans qui tu avais investi tant d'amour. Il t'a laissé tomber. Et ta vie est devenue boiteuse depuis ce jour. Non pas boiteuse physiquement, mais peut-être boiteuse à l'intérieur. Tu sens que quelque chose cloche. Que quelque chose ne va pas bien, que quelque chose n'est pas dans l'ordre de la vie que Dieu a prévue pour toi, de la vie que Dieu te destine. Peut-être que tu es là ce soir parce que, comme Méphibosheth, ta vie est boiteuse parce que quelque chose remonte à l'enfance. À 5 ans, cet enfant a été laissé tomber. Et aujourd'hui, quand vous examinez un petit peu les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a des gens dont la vie est boiteuse. Parce que des traumatismes remontent à l'enfance. Parce que dans leur enfance, ils ont été abusés. Parce que dans leur enfance, ils ont été violentés. Je me souviens de cette femme à Alès. Un jour, alors que je sortais ma poubelle, je l'ai vue enjamber le garde-corps du balcon et vouloir sauter dans le vide sous l'effet de l'alcool. Et lorsque je l'ai, par la grâce de Dieu, arrêtée en discutant avec elle et que je suis monté parler avec elle, elle m'expliquait qu'elle avait été abandonnée, placée à la DAS et dans la famille où elle était censée trouver refuge, soutien, aide. Elle a été violentée dans un foyer détruit par l'alcool. On se dit, mais comment c'est possible? Mais pourquoi cette femme était boiteuse? Pourquoi la vie de cette femme était boiteuse? Parce que quelque chose remonte à l'enfance. On peut être boiteux dans la vie parce que, comme Méphibosheth, il y a un deuil qui nous a atteints, une perte, le même jour il a perdu son père et son grand-père. Ma tante, je peux dire que, alors qu'elle est partie maintenant, sa vie n'a été que une vie boiteuse. Son mari, pas vous mettre la sinistrose, mais à l'âge de 6 mois, le seul enfant qu'elle avait est mort dans son lit, étouffé. Son mari, qui se persuadait qu'il était malade du cancer, alors qu'il ne l'était pas, s'est donné la mort un jour. Et sa vie, à partir de ces circonstances, est devenue boiteuse. Oui, notre vie peut, à cause de diverses choses, être boiteuse. Elle peut être boiteuse parce que, alors que Dieu nous cherche, eh bien, pour nous faire du bien, notre perception de Dieu n'est pas la bonne. Comme les Israélites à un moment diront, mais c'est parce que Dieu nous hait qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Et j'aimerais vous dire que des gens fuient Dieu parce que leur perception, leur compréhension de ce que Dieu désire faire dans leur vie ne correspond pas à la réalité. Alors, j'aimerais déjà vous dire cet après-midi, oui, que Dieu cherche, et ça c'est très simple à comprendre, des hommes, des femmes, peut-être que la vie a brisé, peut-être qu'ils ne sont pas boiteux physiquement, mais qu'ils le sont intérieurement, à qui il pourra faire du bien, à cause non pas de Jonathan, mais à cause de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, par amour, désirant nous restaurer, désirant nous soigner, désirant nous sauver de la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. On peut être boiteux dans la vie
Parce que comme Méphibosheth, on vit dans la crainte. Cet homme, nous dit l'Écriture, vivait caché, dans la crainte. Et c'est pour ça que le roi David lui dit « Ne crains pas, car je veux te faire du bien. Je veux te bénir. Je veux user envers toi de ma bonté. » Amen. Gloire à Dieu. Et on peut être boiteux dans la vie parce qu'on a peur de mourir. Parce qu'on a peur d'être laissé, abandonné. Parce qu'on vit tout simplement lié, tenu par nos peurs et nos craintes. Eh bien, dans ces choses-là, Dieu a quelque chose à faire. Et la croix est la réponse de Dieu, je crois, à toutes nos craintes. Craintes qui, en réalité, ne sont apparues que de la rupture de la communion entre l'homme et Dieu. Oui, Dieu cherche peut-être quelqu'un cet après-midi. Un homme, une femme, un jeune qui est là et qui entend ce message. Eh bien, Dieu te dit, je te cherche. Et je mets tout en œuvre pour te faire venir à moi. Comme David l'a fait pour Méphibosheth. Parce que je veux te faire du bien. Parce que je désire te bénir. Parce que je désire restaurer ta vie. Parce que je désire apporter ma bonté, ma bienveillance, mon amour à ce que tu vis et traverses aujourd'hui. Amen. Je vais terminer. Lorsqu'on considère l'histoire de Méphibosheth, il y a trois choses qui vont être mises en œuvre pour que, eh bien, David fasse du bien à ce personnage de la Bible, cette personne. La première des choses, c'est qu'il va lui dire tout simplement et lui parler. Et la première chose que Dieu fait pour nous montrer ce qu'il veut faire, c'est qu'il nous parle. Je crois vraiment à l'action de l'Esprit de Dieu cet après-midi pour parler dans un cœur, pour parler dans ton cœur. Et la première chose que donc David va faire à l'égard de Méphibosheth, c'est lui parler, le faire venir. Et si tu es là, et si tu entends ce message, ce n'est pas le fruit du hasard. Peut-être que tu as été laissé tomber, oui, par ton père, par ta mère, et ta vie est boiteuse. Et Dieu te parle, et Dieu te montre ce qu'il veut faire. Et il te dit, je veux te faire du bien. Je veux user de ma bonté envers toi. C'est tout simple à comprendre. Et c'est un appel à la foi, à croire ce que Dieu te dit cet après-midi. La deuxième chose qu'il va faire, il va lui dire, ne crains pas. Il le rassure sur ses désirs à son égard. La troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire, je vais te restituer cet héritage que tu as perdu. Et cet héritage que l'être humain a perdu, c'est tout simplement la présence de Dieu. C'est la relation que Dieu désire que nous ayons avec lui. Et c'est de là que sont nés tous les problèmes de l'humanité. Du péché qui coupe, brise la relation entre Dieu et l'homme. Et Jésus est venu pour rétablir cette relation, nous donner un accès à la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'il est mort sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut vers le bas. La présence de Dieu par l'œuvre de Jésus est de nouveau accessible. Amen. Et Dieu peut alors, oui, manifester sa bonté, le bien qu'il veut nous faire. Gloire à Dieu, le bien qu'il veut te faire, le bien qu'il veut faire à ton cœur brisé. Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur, où je veux manifester ma grâce, ma bonté, Oui, Dieu veut nous restituer ce que nous avons perdu, sa présence dans nos vies. Amen, qui fait toute la différence. Et la présence de Dieu n'est accessible que par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. La connexion retrouvée, la relation retrouvée avec Dieu n'est possible que par la foi en Christ qui prend sur lui ce qui nous sépare de Dieu, ce qui coupe cette relation avec Dieu, nos péchés. Et il lui dira aussi, tu mangeras tous les jours à ma table comme l'un de mes fils. Eh bien, j'aimerais vous dire, oui, que alors que nous étions, comme je le disais ce matin, des fils de la rébellion, des enfants de colère, Dieu, en Christ, nous adopte comme ses enfants bien-aimés. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, cette parole faite chair a donné le pouvoir à ceux qui croient de devenir enfants de Dieu. Et quand vous êtes enfant de Dieu, Dieu s'occupe de tout. Il y a une table dressée où nous pouvons nous nourrir des mets divins, amen, de la nourriture du ciel d'en haut, nous nourrir de sa présence dans nos vies, amen. Oui, et il lui dira à la table, dans la communion que nous avons avec le Seigneur, avec Dieu notre Père, eh bien oui, il nous fait du bien tous les jours. Et il restaure, reconstruit, fait du bien à nos vies, manifeste sa bonté. Amen. Alors je termine, il dira, mais qu'est-ce qu'un chien mort tel que moi? Vous savez, un chien dans la Bible, à un moment donné, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, dehors les chiens. Un chien, c'est un animal impur. Et oui, ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort du cœur de l'homme, dira Jésus. Ce qui nous souille, c'est ce qui vient du cœur. Alléluia. Mais il nous donne un cœur nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter ici. On va prier le Seigneur. Je pense que tu as compris que Dieu, par la croix et l'œuvre de Jésus, désire te faire grâce. Oui, comme Méphibosheth, qui était de la maison de l'ennemi, bien David le cherchait pour lui faire du bien. Et peut-être que notre frère peut prendre sa guitare et jouer. Je voudrais juste un fond musical. Peut-être que tu es là cet après-midi et Dieu te parle. Nous ne sommes que des hommes imparfaits dans notre manière d'apporter l'Évangile, mais nous faisons confiance à celui qui connaît chacun cet après-midi et qui a des desseins bienveillants envers chacun. Tu es même peut-être chrétien, tu es même peut-être déjà engagé avec le Seigneur, mais tu sens que ta vie est boiteuse, qu'il y a quelque chose qui cloche, que la vie à laquelle Dieu te destine est autre chose. Peut-être que tu es là et tu entends parler de Jésus depuis des mois, des années. Vous savez, pour que Dieu lui fasse du bien, il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il réponde à l'appel de David. Il fallait qu'il réponde aux sollicitations de David. Et pour que Dieu te fasse du bien, il faut que tu répondes à l'appel dans la foi. Que tu t'approches tel que tu es. Que tu confesses ton état. Comme Méphibosheth, ton impureté, que tu confesses l'état de ton cœur, que tu confesses tout simplement l'état de ta vie, que tu répondes en disant « Oui, Seigneur, je crois que aujourd'hui, par ton œuvre dans ma vie, par ce que tu me restitues, au travers de l'identité nouvelle que je peux avoir en Jésus-Christ. » Vous savez, Méphibosheth, ça veut dire exterminant la honte. Et peut-être que tu caches des choses, non pas parce que tu les caches volontairement, mais si elles étaient mises à la lumière, il y a un moment donné où Paul dira à l'église d'Éphèse, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il y a peut-être des choses qui, si elles étaient mises à la lumière, tu en aurais honte. Eh bien, oui, Dieu veut exterminer la honte qui peut exister dans ta vie. La honte de ton passé, la honte de ce qui est arrivé, la honte de ce que tu fais en secret. L'œuvre de Christ est suffisante pour te libérer de tout cela, de ce qui peut-être fait ta honte aujourd'hui en secret. Amen. Alors je ferai simplement un appel cet après-midi. Peut-être que dans ton cœur, tu sens que la tristesse ne te quitte pas. Je crois, oui, qu'on peut connaître des moments de tristesse. Mais que tant qu'on n'a pas été guéri, dans son cœur, intérieurement, on ne peut pas connaître la joie de Dieu. Qu'il y a des facteurs limitants. Et Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te bénir. Et ce n'est pas simplement dans un moment juste d'imposition des mains, mais qui peut quand même être un déclencheur. Mais c'est dans ta relation avec lui, ta communion de chaque jour, en mangeant à sa table, en communiant, en ayant des moments d'intimité, il va faire son œuvre, il va te faire du bien, il va exterminer la honte qui existe peut-être, il va chasser la peur, alléluia, il va te bénir, te faire du bien, gloire à Dieu, ta peur de l'avenir, ta peur de ne pas réussir, d'échec, il va le faire, il va te rassurer, il va te sauver, te pardonner, te libérer de la culpabilité, alléluia. Et si tu es concerné cet après-midi, j'aimerais qu'avec les pasteurs, nous puissions prier pour toi. Je crois que c'est un moment important. Et si vraiment tu te sens concerné, j'aimerais qu'à ta place, tu puisses élever ta main. Oui, le Seigneur vous voit, vous qui levez votre main. Oui, le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous qui avez levé votre main, j'aimerais que puissiez vous approcher, que nous puissions prier pour vous. Dans le nom du Seigneur Jésus, je crois que nous sommes dans la présence de Dieu. Les visages sont baissés. N'ayez pas peur. Vous qui vous sentez concerné avec le pasteur, avec, oui, les frères et sœurs qui prient à leur place, nous allons prier pour vous. Et j'aimerais vous encourager à prier vous-même. J'aimerais faire un appel au salut à un jeune, à une personne que Dieu appelle. Et je demande aux chrétiens de prier, s'il vous plaît. Dieu veut te faire du bien. Gloire au Seigneur.
J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie.
Alléluia. Oh, Jésus.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.